priorité santé.
Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans Priorité Santé. C'était le 30 janvier dernier à Londres. Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, les directeurs des plus grands laboratoires pharmaceutiques et même Bill Gates en personne, signaient la déclaration de Londres contre les maladies tropicales négligées. L'objectif, éliminer ou contrôler d'ici 2020 des maladies comme la filariose lymphatique, la leishmaniose ou la maladie de Chagas. Et si la signature de cette déclaration témoigne d'une réelle volonté politique qui ravit les médecins et les chercheurs, c'est bien le partage des librairies de molécules entre les différents laboratoires, hein, une première, il faut le souligner, qui donne un nouvel espoir aux millions de victimes de ces maladies. Alors qu'entend-on par maladies tropicales négligées? Pourquoi ont-elles été laissées de côté tant d'années? Et surtout, la déclaration de Londres permettra-t-elle réellement d'éliminer certaines de ces maladies négligées? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Le docteur Bernard Pécoul est directeur du DNDI, l'initiative médicaments contre les maladies négligées. Le docteur Areski Isri, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier en parasitologie mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Et le docteur Robert Sebag, vice-président accès aux médicaments chez Sanofi Aventis et attaché des hôpitaux de Paris Pitié-Salpêtrière, maladies infectieuses. Messieurs, bonjour.
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 Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Alors, une petite précision pour nos auditeurs. Le docteur Bernard Pécoul n'est pas à nos côtés dans le studio 158 de la Maison de la Radio, mais dans le studio de l'OMS à Genève, en Suisse. Docteur Pécoul, vous êtes bien installé, tout va bien ?
Oui, bien sûr, tout va bien.
Bon, écoutez, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, selon vous, dans cette déclaration de Londres ? C'est cette volonté politique, hein, pour lutter contre ces maladies ou c'est le partage des molécules mises à disposition des chercheurs ? Je ne sais pas qui veut commencer. Docteur Sebag.
D'abord, c'est un événement. C'est la première fois que les différents acteurs de santé publique se réunissaient au-delà de toute polémique. Vous l'avez dit, il y avait à la fois M. Bill Gates en personne, mais surtout comme responsable de la fondation Bill and Melinda Gates. Il y avait 10 représentants, mais au plus haut niveau, donc les numéros 1 des entreprises pharmaceutiques impliquées dans la lutte contre...
Les 13 plus grosses entreprises pharmaceutiques.
Étaient là, mais au niveau de leur numéro 1. Il y avait également Mme Chan, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, mais il y avait également les responsables de la Banque mondiale. Tous ces gens,
les
si
ministres
voulez,
de la santé du Mozambique santé, et de la Tanzanie, voilà, il y avait du beau monde vraiment, hein.
Et donc, si vous voulez, c'était cette implication de tous ces acteurs potentiels, si vous voulez, contre ces maladies-là, qui arrivaient, qui disaient, voilà, nous prenons date aujourd'hui sur un certain nombre de maladies, il existe des moyens techniques, ils ne sont pas suffisants, il faut également une recherche, d'où la présence de DNDI également à cette réunion, mais d'une manière extrêmement concrète, en disant, voilà, pour un certain nombre de maladies, on va fixer des dates. Il y a une sorte de carte datée en disant ben, jusqu'en 2020, on pourra éliminer, on pourra supprimer telle maladie, la diminuer nettement. Donc il y a une prise de date et cette implication au plus haut niveau, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et l'événement, il est là. Et à côté de ça, à côté d'un événement, vous avez des moyens. Et parmi les moyens que vous avez cités, il y a effectivement l'ouverture de ces grands laboratoires, de leur librairie de molécules. C'est les laboratoires ont de nombreuses molécules à la disposition
de recherche. Des secrets bien gardés, il faut le préciser. Les laboratoires ne partagent jamais ces secrets de molécules, c'est le fond de leur commerce. Hein. Et pour la première fois, ils vont partager ces molécules pour permettre à des chercheurs ou des médecins, comme le docteur Pécoul du DNDI, eh bien d'affiner la recherche et de trouver de nouveaux médicaments. Docteur Pécoul à l'OMS à Genève, c'est ça l'intérêt justement de profiter de ces molécules, enfin, d'avoir à disposition ces molécules.
Bon, mais bien entendu, nous assistons à une avancée majeure avec l'accès... au savoir-faire de ces laboratoires, puisqu'il s'agit des molécules, mais il s'agit aussi d'avoir contact direct avec les laboratoires, avec les chercheurs, avec les gens qui ont accumulé l'expérience, afin de gagner du temps. Parce que l'idée, c'est de développer des nouveaux produits adaptés aux circonstances le plus vite possible. Donc on bénéficie de l'expérience acquise au cours des nombreuses années dans d'autres domaines thérapeutiques pour le faire bénéficier à ces malades qui sont les plus pauvres parmi les plus pauvres parce qu'ils sont touchés par des maladies qui sont extrêmement dramatiques et qui vivent dans des situations très difficiles parce que même à l'intérieur des pays, il faut savoir que ces gens sont très souvent négligés du fait de leurs conditions de vie et de leur lieu de vie.
Alors justement, vous parlez de ces maladies négligées, elles touchent plus d'un milliard de personnes. Le docteur Ariski-Isri parlait de la moitié de l'humanité. Alors il y a 17 maladies, la moitié de l'humanité est à risque. Donc un milliard de personnes touchées par l'ensemble de ces maladies, plus de 500 000 morts par an. On parle de volonté politique, mais pourquoi a-t-on attendu si longtemps, docteur Ariski-Isri ?
D'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités à cette émission, parce qu'on va parler de ces maladies négligées. Pour moi, la plupart de ces maladies sont des maladies parasitaires. Je voudrais faire un tout petit rappel qui va nous permettre de comprendre pourquoi on a tardé peut-être. C'est vrai qu'on dit qu'elles sont négligées parce qu'elles touchent peut-être les populations les plus pauvres, celles qui, dans les voies, ne comptent pas trop dans les grands événements, etc. Mais je voudrais rappeler que ces maladies, pour la plupart, ont été éradiqués ou presque des pays les plus riches. Par exemple, si on prend les verminoses, les maladies dues à des vers digestifs, on n'en trouve presque plus dans les pays riches. Pourquoi ? Parce que tout le monde a accès à l'hygiène, tout le monde a accès aux médicaments. Alors que dans les pays les plus pauvres, là où les gens souffrent encore, là où il n'y a pas toujours l'eau potable, là où il n'y a pas toujours le tout à l'égout, eh bien ces maladies persistent et font encore des ravages. Alors pourquoi on a attendu ? Eh bien c'est simplement le développement déjà.
Parce qu'elle concernait des pays pas développés. Docteur Sebag, vous voulez parler ?
On parle de maladies négligées. On a souvent dit à Londres qu'il faudrait parler peut-être de malades négligés, de patients qui sont négligés. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé, je crois, on dit souvent, c'est le sida. Et c'est la connaissance du sida sur le continent africain en particulier qui a montré qu'au-delà du sida, du paludisme, de la tuberculose, pour lesquels il y a des moyens aujourd'hui, création du Fonds mondial, on s'est aperçu qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres maladies, et c'est ces maladies tropicales négligées. Et donc il y a eu cette prise de conscience, si vous voulez, à partir du sida, de la tuberculose et du paludisme, qui a montré qu'il y avait aussi d'autres types de maladies. Ça me paraît important. Et aujourd'hui, la santé publique dans les pays du Sud, c'est devenu un sujet politique. C'est devenu un sujet politique qui est traité au niveau du G8, qui est traité au niveau du G20, et vous n'avez aucune conférence internationale sans qu'on aborde ces sujets. On est dans un monde global, il y a une globalisation de l'information, donc on sait les choses, et on sait aussi qu'il y a ce type de maladies pour lesquelles on a des moyens techniques, pas toujours satisfaisants, c'est pour ça qu'il faut une innovation, il faut une recherche, mais le problème, c'est un problème d'accès et un problème de volonté politique, et Londres, c'était l'illustration de cette volonté politique.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'elle vaut, cette volonté politique ? On se souvient tous qu'en 2001, il y a eu les accords d'Abuja qui stipulaient que tous les pays signataires devaient consacrer 15% de leur PIB à la santé. On a parlé de volonté politique. Aujourd'hui, force est de constater qu'à part le Rwanda, peut-être, aucun pays ne consacre plus de 15% de son budget à la santé. Donc, qu'est-ce que ça vaut finalement la volonté politique ? Docteur Pécoul, peut-être à l'OMS à Genève.
Voilà, je voudrais préciser que deux acteurs présents à Londres n'ont pas été mentionnés jusqu'à maintenant. C'est le DFID, qui est l'agence de coopération britannique, et l'USAID, qui est l'agence de coopération nord-américaine. Donc, ce sont les deux financeurs internationaux qui étaient présents à ce meeting et qui ont décidé d'affecter des ressources sur ces maladies. Des ressources qui, aujourd'hui, sont trop limitées. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de ressources pour pouvoir aborder sérieusement le contrôle et l'élimination de telles maladies. Donc, c'était important d'avoir ces pays, mais ça ne suffit pas. Il faut absolument qu'ils soient entourés d'autres partenaires. Et je reviens sur votre question. C'est probablement l'obstacle majeur, c'est d'avoir ces maladies dans les priorités des programmes de santé dans les pays qui sont directement touchés. Et là, il y a deux catégories de pays. Il y a les pays qui sont pauvres et qui ont beaucoup de priorités. Il est difficile de mettre ces maladies dans la liste des priorités. Et il y a les pays qui sont aujourd'hui émergents sur le plan économique, qui ont une tension entre les nouvelles maladies qui touchent leur population qui se développe, la population qui devient plus riche et qui est affectée par des problèmes chroniques, et des grandes parties de ces populations en Inde, au Brésil, qui sont toujours affectées par ces maladies parasitaires ou ces maladies des pauvres, mais qui sont souvent complètement abandonnées, qui sont complètement en dehors du radar. Donc je pense que la question majeure, c'est de ramener ces maladies au centre d'un agenda politique afin qu'on puisse les aborder de manière sérieuse.
On parle donc de partage de connaissances entre laboratoires. Docteur Sebag, vous travaillez pour un laboratoire. Qui est-ce qui a poussé ces laboratoires à partager ces molécules ? Bon, d'abord, qu'il n'y avait pas de business à faire sous ces maladies négligées.
Alors, d'abord, il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire. Sanofi est un laboratoire français. La France a eu un passé colonial et ils avaient des molécules. Ils étaient impliqués. Donc, je veux dire, il y a un tropisme à la fois des laboratoires britanniques, du fait de l'histoire, le Commonwealth, et également la France, parce que depuis très longtemps. Et souvent, les molécules qui sont utilisées aujourd'hui sont de vieux médicaments qui étaient utilisés sur la leishmaniose, sur la maladie du sommeil. Il y a cette prise de conscience. Il y a cette prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui, comme acteur de santé, il y a eu des erreurs de fait. L'industrie pharmaceutique est extrêmement, extrêmement critiquée, si vous voulez, de dire bon, on ne peut pas rester à l'écart de ce qui se passe. Et puis un autre argument, qui est un argument également économique, c'est qu'on sait que pour les laboratoires, la croissance viendra du Sud. Et que si cette croissance viendra du Sud, il faut s'occuper des maladies qui existent dans le Sud, mais également avoir une meilleure connaissance, si vous voulez, de cette pathologie en général. Et comme l'a dit Bernard Pécoul, il y a les maladies tropicales négligées, mais demain, il y aura aussi des maladies chroniques avec une élévation, même si elle est mineure, du niveau de vie.
Et on va y revenir tout au long de cette émission.
Priorité Santé sur RFI.
Vous écoutez Priorité Santé sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre les maladies tropicales négligées avec nos invités. Le docteur Bernard Pécoul, directeur du DNDI, l'initiative médicaments contre les maladies négligées. Le docteur Areski Isri, maître de conférences universitaires, praticien hospitalier en parasitologie, mycologie au service de parasitologie à l'hôpital Avicenne de Bobigny en banlieue parisienne. Et du docteur Robert Sebag, vice-président accès aux médicaments chez Sanofi Aventis. Docteur Pécoul, concrètement, alors vous travaillez pour le DNDI, peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est. Hein. C'est une organisation de recherche scientifique à but non lucratif qui développe des médicaments pour lutter contre les maladies négligées. Ce partage de molécules va permettre une nouvelle recherche. Et on sait que, par exemple, pour certaines maladies, comme la maladie du sommeil, il n'y avait plus de traitement. Ça, c'est fondamental aussi.
Oui, tout à fait. Si DNDI a été créé, c'est parce qu'on a constaté que la recherche dans ces domaines-là était totalement en panne. Il n'y a pas eu de nouvelles molécules qui avaient été découvertes au cours des trois dernières décennies. Alors que les progrès scientifiques ont été majeurs pendant cette période-là et que de nombreux nouveaux médicaments ont été développés pour les autres maladies. Or, les domaines ne sont pas hermétiques. Quand on fait des progrès de la science, on peut en faire bénéficier l'ensemble des pathologies à condition qu'on investisse dans les bons domaines. Donc, DNDI a été créé pour ça. Et avec un constat de départ aussi, si je prends l'exemple de la maladie du sommeil, on continuait à traiter la majorité des malades avec de l'arsenic. Le seul médicament disponible, c'était le mélarsoprol, qui dérivait de l'arsenic, extrêmement toxique, tuant un patient sur 20 lorsqu'on l'utilise de par sa toxicité. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Donc moi, j'ai passé très longtemps à travailler pour Médecins sans frontières. Il nous paraissait inadmissible de continuer au début du 21e siècle, à traiter des malades avec un tel traitement. Donc il a fallu qu'on travaille à attirer des différents partenaires, publics, privés, autour de la table, pour faire des progrès, pour identifier des nouveaux candidats, les tester auprès des malades et les mettre à disposition de ces nouveaux, dans ces nouvelles pathologies.
Alors, rappelons que la maladie du sommeil est due à la mouche tsetse, c'est ça. Elle affecte le système nerveux central. Elle est mortelle dans 100% des cas quand il n'y a pas de traitement. Hein.
Oui, tout à fait. C'est une maladie qui tue à 100% lorsqu'on est au stade 2 de la maladie, si on ne délivre pas un traitement au malade.
Docteur Areski Isri, je vois vous prenez des notes. Vous voulez intervenir. Allez-y, vous êtes trois à intervenir, c'est compliqué.
Oui. Oui, tout à fait. En fait, en écoutant mes collègues et puis en réfléchissant un petit peu à ces maladies dites négligées, moi je pense qu'il y a trois facteurs majeurs qui font que ces maladies persistent aujourd'hui dans les régions tropicales. Je pense que le premier facteur est probablement la stabilité politique dans un pays. Lorsque dans un pays la politique est stable, je pense que le gouvernement peut commencer à organiser un travail de santé publique, une politique de santé publique. Mais pour faire ce travail, il faut des moyens. Et c'est le deuxième élément. Les moyens sont très importants. Sans argent, on ne peut rien faire. Mais malheureusement, il n'y a pas que les moyens. Les moyens, regardez, la plupart des maladies peuvent bénéficier de médicaments actifs. Les maladies qui n'ont pas de molécules ou de médicaments actifs ne sont pas très nombreuses. On parle de la trypanosomose, oui, c'est vrai, on n'a pas de bons médicaments. Les leishmanioses, il y a des médicaments, mais bon, ils ont parfois leur toxicité.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, on parle de leishmaniose par exemple, détaillez-nous de quoi s'agit-il, ou quels sont les pays où la leishmaniose sévit encore ?
Oh, la leishmaniose touche 88 pays, et puis elle est très répandue quand même dans toutes les régions tropicales et tempérées. Si je prends le cas de la leishmaniose cutanée, on a à peu près 1,5 million de cas chaque année, et on en trouve à peu près 100 000 rien qu'en Afrique du Nord. L'Asie centrale est touchée également très largement, si on parle d'Iran, si on parle de Pakistan, etc. Toutes ces régions sont fortement touchées. Mais alors, si on va en Amérique latine, c'est pire parce que la leishmaniose là-bas, elle est pas seulement cutanée, elle est cutanée aux muqueuses et elle est défigurante. À ça, il faut ajouter qu'il y a une autre forme de leishmaniose, la leishmaniose viscérale, qu'on trouve même en Europe, dans le bassin méditerranéen, tout autour du bassin méditerranéen, y compris la France. Et cette forme-là, elle est mortelle en l'absence de traitement. Vous voyez, c'est quelque chose de très répandu, hein, 2 millions de cas à peu près chaque année.
Mais docteur Sebag, on parle donc d'ici 2020 de maladies à éliminer ou à contrôler. Alors il y en aurait 3 à éliminer, 7 à contrôler. Quelles sont celles qu'on peut éliminer et quelles sont celles qu'on pourrait contrôler ? Et prenons le cas de la leishmaniose, par exemple, quel est l'objectif avec la leishmaniose ?
Alors, si on prend la leishmaniose, il existe effectivement aujourd'hui des traitements. Ils ne sont pas tout à fait satisfaisants, mais ils existent. Alors, vous avez des formes, dont vient de parler mon confrère, qui sont des formes relativement légères qu'on trouve au Moyen-Orient, en particulier autour du bassin méditerranéen. Donc, on peut arriver à l'éliminer, mais encore faut-il savoir le diagnostiquer. Alors, il y a des travaux de recherche sur des formes locales de médicaments. Le traitement de base est un sel pentavalent d'antimoine qui n'est pas toujours satisfaisant. Il y a également de nouveaux produits. Nos amis d'INDI ont développé la paramomycine. Il y a également des produits comme la miltefosine ou l'ambisome qui sont des produits...
Ce sont les mots scientifiques.
Voilà, c'est des mots scientifiques. Bon, il y a deux choses. Il y a d'abord la lutte contre le vecteur. C'est extrêmement important, hein, c'est transmis par un petit moucheron qu'on appelle le phlébotome. Et puis il faut également traiter les malades, connaître les animaux réservoirs, parce qu'il y a des animaux réservoirs. Par exemple, sur certaines formes de leishmaniose, c'est le chien qui est un animal réservoir. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi de la politique. Si on prend en Amérique latine, c'est une maladie typiquement liée au développement. C'est quand l'homme va pénétrer dans des zones forestières. Et quand l'homme pénètre-t-il dans des zones forestières ? Quand on construit des routes en Amazonie, on défriche, on rentre dans la forêt. Nous avons fait une étude avec l'OMS à la fin des années 80 qui montrait que tous les nouveaux quartiers de Manaus en Amazonie où on défrichait, on construisait des maisons, ils étaient tous infectés. Autre problème politique en Amérique, sur le continent latino-américain, où les hommes sont-ils dans les zones forestières ? Il y a deux choses, c'est les narcotrafics, tous les laboratoires clandestins qui font de la cocaïne qu'on trouve en Colombie, qu'on trouve en Bolivie, en Équateur ou dans les zones forestières amazoniennes, ils sont tous atteints par la maladie. Deuxième, c'est la guérilla. La guérilla qui est dans les forêts. Et juste une anecdote, si vous voulez, on en a beaucoup parlé au moment de Ingrid Betancourt, où la plupart des guérilleros qui vivent, voilà, les FARC en Colombie, les FARC attaquent les casernes de l'armée colombienne pour s'emparer du glucantime, qui est un des médicaments pour lutter contre la leishmaniose. Donc c'est un sujet politique. Il est lié au développement. Il est lié aussi également au réchauffement climatique, hein, puisqu'il y a une augmentation des vecteurs. Donc il faut toujours parler de la maladie, mais parler également de son environnement politique et climatique.
Docteur Araskizri.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ajouterais que la leishmaniose touche aussi beaucoup les populations d'agriculteurs. Vous avez parlé d'Amérique latine. Quand ils font des abatis, quand ils vont défricher pour faire l'agriculture, ils sont touchés. Mais sans aller en Amérique latine, juste ici, hein, quand on met en valeur les terres du sud, là où il y a le désert, et tous les déserts du monde sont concernés, et dès qu'on apporte l'humidité, dès que l'homme pénètre là-dedans, eh bien on voit éclater des épidémies de leishmaniose. Là, c'est encore un petit peu de la politique de développement.
Mais messieurs, si oui, docteur, écoute, excusez-moi, parce que là, on arrive à terme de la première partie, je vous donnerai la parole. Ouais. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le rappel des titres sur RFI. À tout de suite.